Chapitre 72. Jouna court à travers le grand hall d'entrée de l'hôpital de Danderud, en songeant au terrier de lapin qui, telle une étoile morte, aspire tout autour de lui. En ce moment, il n'y a que deux lignes à suivre. Deux noms. Celui d'un des membres du club et celui de la personne qui a mis le feu au local. Saga a réussi à tracer Grace et Jouna a fait appel à Anya pour localiser Oscar von Krutz. Le lycée de Ludwigsberg n'avait pas tenu de registre des élèves qui avaient accès au terrier de lapin. La direction de l'institution avait pris l'habitude de gérer les privilèges de certaines familles avec discrétion. Seuls les membres eux-mêmes connaissaient les adhérents du club. Si William Fock avait frimé avec son association très privée devant Rex, c'était seulement pour faire étalage de son pouvoir, comme un enfant qui partage ses bonbons avec certains et pas avec d'autres. Plus loin dans le couloir, Anya Larsson attend devant les ascenseurs. Elle est vêtue d'un tailleur orange qui épouse à merveille son corps plantureux. Ses larges épaules révèlent qu'elle a été médaillée en natation aux Jeux Olympiques, mais aujourd'hui elle travaille à la NOA. Avant que Jouna soit condamnée et incarcérée à Kumla, elle était sa plus proche collaboratrice. Jouna arrive à sa hauteur au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Ils entrent ensemble dans la cabine, se regardent et se sourient. Cinquième ? Demande Jouna en appuyant sur le bouton.
T'aurais dû passer quelques années de plus à Kumla,
murmure Anya en le reluquant.
Si tu le dis.
Parce que ça t'a réussi, t'es plus beau que jamais, dit-elle, et elle le serre fort dans ses bras.
Tu m'as manqué, chuchote-t-il contre sa tête.
Menteur ! Sourit-elle. Il reste enlacé jusque ce que la porte s'ouvre au niveau 5. Anya le lâche à contre-cœur. Elle se tamponne le coin des yeux quand ils avancent dans le couloir.
Comment il va ?
Il va s'en sortir, dit-elle en s'efforçant de paraître optimiste.
Il passe devant une cloison de verre donnant sur un accueil désert et une salle d'attente où des journaux en lambeaux débordent d'un porte-revue fixé au mur.
La chambre de Gustave est située un peu plus loin, mais Anya s'arrête avant.
Je vais chercher du café. Je pense qu'il a envie de te parler en tête à tête, dit-elle à voix basse.
D'accord.
Sois gentil avec lui,
lui recommande-t-elle avant de disparaître. Jouna frappe à la porte et entre dans une petite pièce au mur couleur crème. Un vase avec un grand bouquet de fleurs est posé sur l'appui de la fenêtre, devant les stores baissés. Gustave est allongé sur le lit d'hôpital, les jambes cachées sous une couverture jaune. Le liquide de perfusion s'écoule goutte à goutte dans le régulateur de débit. Un bandage entoure son épaule et toute la cage thoracique. Un tuyau en plastique descend dans un flacon de drainage.
Comment tu vas ? Demande Jouna en s'asseyant à côté du lit.
« Tout baigne, » répond Gustave avec un petit geste vers son bras amputé. « Shooté juste comme il faut en permanence, il me drogue un max. Je ne fais que dormir, » précise-t-il, sans parvenir à sourire.
« C'est Anya qui t'a apporté des fleurs ?»«
Non, c'est Yannis. J'espère qu'il n'aura pas d'ennui à cause de ce qui s'est passé, parce qu'il est bon. C'est un excellent chef, un excellent tireur d'élite. » Comme toi, il va toujours jusqu'au bout.
Son visage aimable est résolu et très pâle. Ses lèvres sont presque blanches.
Jouna, j'ai longuement pensé à ce que je voulais te dire si j'en avais l'occasion. Et la seule chose qui revient tout le temps, c'est que j'ai honte. Et je suis terriblement désolé. Je sais que je n'ai pas le droit d'en parler, mais il faut que je te le dise à toi. Toute l'intervention a été une catastrophe, je ne me l'explique pas. J'ai perdu Sonny et Jamal, j'ai perdu l'hélicoptère, j'ai perdu Marcus et...
Ses yeux deviennent brillants et il se tait, secoue la tête et chuchote « Pardon ».
Personne ne peut prévoir le déroulement d'une opération, c'est impossible, dit Jouna. On fait de son mieux, mais... Parfois, ça tourne mal quand même. et ça t'a coûté cher.
J'ai eu de la chance, dit Gustave, alors que les autres...
Sa voix s'éteint. Il ferme les yeux et semble disparaître dans une pensée. Sa tête s'incline lentement vers sa poitrine et Juna comprend qu'il s'est endormi. En sortant dans le couloir, il trouve Anya devant la porte, en train de manger un roulé à la cannelle. Il lui confie le sac de sport avec les annuaires qu'il a pris à Ludwigsberg et lui demande de comparer tous les noms avec le casier judiciaire, le registre des personnes disparues et celui des décès.
« Je vais d'abord dire bonjour à Gustave, » dit-elle. « Tu as quelque chose sur Oscar von Krutz ?»«
J'attends une réponse d'une minute à l'autre, »
répond-elle en lui tendant le sachet de viennoiserie. Au moment où il y glisse la main pour prendre un cannelbeul, elle la grippe et rit un peu trop fort de ses tentatives de se dégager. Le sourire aux lèvres, elle regarde Juna manger son roulé tout en lui expliquant qu'il n'y avait plus de café mais qu'elle peut aller lui chercher un verre de sirop de fraise. La sonnerie de son téléphone l'interrompt.
« Voilà, » dit-elle après avoir raccroché. « Oscar von Krutz habite au 10 Österlundgatan et il possède une maison sur la Côte d'Azur. Il est célibataire mais sort depuis peu avec une jeune femme, Caroline Hamilton, que je trouve beaucoup trop jeune pour lui. Aucun des deux ne répond au téléphone. »
Le bel immeuble du XIXe siècle est étrangement jeune dans ce vieux quartier de Gamlastan. Il surplombe largement les bâtiments voisins. Personne n'a vu Oscar von Krutz sur son lieu de travail ce matin et sa copine Caroline n'est pas venue en cours. Juna sonne à la porte au dernier étage et attend une poignée de secondes, frappe quelques coups sonores, regarde par la fente pour le courrier et voit des lettres par terre dans le vestibule. Il tente d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. Les rayons du soleil traversent le verre coloré de la fenêtre et inondent la cage d'escalier silencieuse. Juna sort son kit de crochetage, introduit le crochet parapluie dans la serrure, lui fait dépasser la moitié du cylindre, repousse les goupilles l'une après l'autre, tourne doucement le cylindre, sort le crochet, recommence et entend le mécanisme émettre un petit clic. La porte de l'appartement d'Oscar von Krutz s'ouvre. Des lettres et des prospectus s'éparpillent jusque sur le palier.
« Police !» crie Juna. « J'entre !»
Il dégaine son pistolet et pénètre dans un grand vestibule équipé de penderies sur mesure en bois noir. Des vêtements ont glissé des cintres sur des chaussures et des bottes. Un sac plastique avec du shampoing, du démêlant et du savon a été renversé et une flaque de liquide rose s'est répandue sur le carrelage rugueux en pierre naturelle. Juna entre dans un salon d'où monte un escalier menant à une vaste mezzanine. Une paroi vitrée y tient lieu de garde-fou. L'air immobile est alourdi par une odeur douceâtre, vaguement écœurante. Une lumière jaune se déverse par les fenêtres et fait scintiller le sol. Le plateau en verre de la table basse entre les canapés est brisé. De petits éclats ont volé dans toute la pièce. Les lampes allumées sur la mezzanine éclairent les rideaux devant la baie vitrée. Juna reste immobile quelques secondes avant de poursuivre dans le couloir qui conduit à la cuisine. Les murs sont tapissés de sombres portraits d'ancêtres peints à l'huile. Quelqu'un a marché dans une poudre blanche et les traces mènent à une porte fermée.
« Police !»
crie Juna encore une fois. Tout est silencieux. Il tend délicatement le bras et entr'ouvre la porte, devine le marbre gris anthracite d'une salle de bain. Il se précipite dans la pièce, l'arme levée dans la pénombre, et balaie les murs et les recoins. Rouge à lèvres, fond de teint et ombre à paupières sont renversés par terre et dans le lavabo. Il s'approche de la luxueuse baignoire en cuivre à moitié remplie d'eau. La ligne de saleté sur le métal indique que le niveau a baissé de 20 cm. Des boîtes de médicaments et de pansements sont éparpillées sous une armoire murale dont la porte miroir est ouverte. Le couloir derrière lui vient s'y refléter et en se déplaçant un peu, il aperçoit l'empreinte d'une main qui s'étire sur le mur en direction de la cuisine. pense au lapin de la comptine, qui essaie de gagner le ciel sur un cerf-volant dont le fil se rompt soudain. Jonah emprunte le couloir et arrive dans une cuisine avec salle à manger attenante. Il enjambe un paquet de farine éventrée, longe le mur de droite, tourne son arme en direction de la salle à manger et la baisse aussitôt. Au soleil, sur l'îlot central, se trouve un pot d'œufs de Corrigan Calix Leurum, du bacon bio et un sachet de légumes pour wok. L'eau des aliments décongelés a coulé sur le sol. Des boîtes de conserve, de la levure chimique et des paquets de céréales sont alignés sur le plan de travail. Les portes de tous les placards supérieurs sont ouvertes. Jonah se dirige vers la salle à manger et son imposante table en bois sombre, entourée de 18 chaises, et s'arrête à une extrémité. À côté d'une tasse à moitié remplie de café et d'une assiette avec une tranche de pain grillé intacte, se trouve un journal du matin. La nouvelle du meurtre de Teddy Johnson devant l'église Saint-Jean occupe toute la une. Jonah monte sur la mezzanine et fouille les deux chambres. Dans l'une, il trouve une valise avec quelques affaires en vrac sur le grand lit défait. Dans l'autre, les tiroirs de la commode sont ouverts, exhibant des sous-vêtements et des chaussettes. Jonah remet son arme dans l'étui et quitte l'appartement. Du pied, il repousse le courrier dans le vestibule, referme la porte et dévale les escaliers. Oscar n'a appris la nouvelle de la mort de Teddy Johnson qu'au moment où il s'est installé devant son journal pour petit déjeuner. L'assassinat lui a fait perdre son sang-froid, il s'est mis à faire ses bagages, à jeter des vêtements dans une valise, puis il s'est disputé avec sa petite amie. Oscar était paniqué. Il a senti que le temps lui était compté. Peut-être ont-ils tout laissé sur place. Peut-être ont-ils réussi à emporter quelques affaires dans leur fuite. Les provisions sorties des placards indiquent qu'ils avaient l'intention de gagner une cachette relativement proche plutôt que de se rendre dans la maison en France.